Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. En cette semaine de Thanksgiving aux États-Unis, l'actualité a été calme, enfin sauf chez OpenAI. En l'espace de quelques jours seulement, ChatGPT a vu son patron se faire virer, puis se faire embaucher chez Microsoft, avant finalement de revenir à la maison. Que se passe-t-il chez OpenAI? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Tim Cook a fait savoir qu'il préparait sa succession. Apple fait un double de vos clés de maison et de voiture, et le Vision Pro ne sortirait pas avant le mois de mars aux États-Unis. Nous sommes le samedi 25 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou encore AirPods, quasiment tous les produits Apple sont en promo en ce moment à l'occasion du Black Friday. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, oui.
Est-ce que tu as fait des bonnes affaires durant le Black Friday ?
Pas autant que Jeff Bezos, mais j'en ai fait certaines. Par contre, désolé pour Tim, dans le lot, il n'y avait pas beaucoup de produits Apple.
Ah, bah pourtant, il y a des promos assez intéressantes. Hein.
Oui, je sais, mais cette année, ce n'est pas une grande année pour moi en termes d'achat de produits Apple. L'année prochaine, peut-être.
Ok. Bah, j'en ai pas acheté non plus, mais j'ai fait acheter à mes parents un MacBook Air M1 avec le bon d'achat à la Fnac, là, qui était assez intéressant. Donc, il y a eu un achat dans la famille de produits Apple. Là. D'ailleurs, en parlant de promos, il y a encore des promos disponibles ce week-end. Vous pouvez retrouver les bons plans sur Mac Génération. Mais maintenant, on va parler de l'affaire qui a tenu tout le monde en haleine cette semaine. C'est bien sûr le remue-ménage chez OpenAI. Alors, je vais faire la chronologie des événements. Le vendredi 17 novembre au soir, Sam Altman, le cofondateur et patron d'OpenAI, a été viré à la surprise générale par le conseil d'administration, sans qu'on sache trop pourquoi. Il a été alors remplacé par Mira Murati, la directrice technique d'OpenAI. Trois jours après, alors que Sam Altman a tenté en vain de revenir à la tête de l'entreprise, un nouveau CEO par intérim a été nommé. Il s'agissait de Demet Shear, l'ancien patron de Twitch. Et quasiment au même moment, Satya Nadella a annoncé qu'il embauchait Altman et d'autres employés de Microsoft, enfin chez Microsoft, pardon. Et ça ne s'arrête pas là. Mercredi, OpenAI annonce que Sam Altman va finalement reprendre son poste de CEO et qu'un nouveau conseil d'administration va être formé. Qu'est-ce qui se passe chez OpenAI, Christophe ?
Grâce à ChatGPT, j'ai obtenu un diplôme de spécialiste d'OpenAI. J'ai eu 2 heures après celui de spécialiste du Proche-Orient, donc voilà, je vais pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. Non, mais alors, plus sérieusement ou pas, OpenAI, cette jour a été compliqué. On rappellera d'ailleurs que l'un des cofondateurs d'OpenAI, c'est un certain Elon Musk. Donc voilà, c'est toujours compliqué quand il y a Elon Musk dans une histoire.
C'est vrai.
Et qui est parti déjà d'ailleurs suite à un conflit avec la direction. Bon, il y a une autre chose qui est particulière, enfin, parce que bon, on parle d'Elon Musk, mais là, il n'y est pas pour grand-chose, quoique. La structure de la société ne doit pas aider. C'est une société, c'est une entreprise qui est basée dans le Delaware. Alors normalement, c'est un gage de qualité quand il s'agit de faire de l'optimisation fiscale de très haut niveau. Mais attention, elle est à but lucratif plafonné, un peu comme AG. Mais nous, c'est parce qu'on n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent qu'on dit ça. Non, mais a priori, donc, de ce qu'on lit, il y a deux courants qui s'affrontent depuis longtemps chez OpenAI. Alors, je ne sais jamais s'il faut dire OpenAI ou il faut le dire à l'anglaise.
Ça fait comme tu veux.
Ouais, hein. Voilà, je vais dire OpenAI, comme ça, je vais arrêter de réfléchir. Il y a ceux qui veulent, on va dire, appliquer le principe de précaution, y aller lentement, sereinement, et se dire ce qu'on fait. Anticiper en fait les potentiels dangers de l'intelligence artificielle. Et il y a ceux qui seraient plutôt emmenés par Altman qui pensent au contraire qu'il faut y aller vite. Et alors, pour l'instant, c'est qu'une rumeur, mais à l'origine du conflit, il y aurait eu une lettre rédigée par plusieurs chercheurs d'OpenAI au conseil d'administration. Donc, dans cette lettre, il serait question d'une découverte significative qui pourrait menacer l'existence de l'humanité. Une menace de plus, dira-t-on. Voilà, on n'est plus à ça après, de toute façon. La nouveauté en question, entre autres, ce serait QStar. Voilà. Ce serait une intelligence artificielle capable de résoudre les problèmes de logique. Elle serait capable de raisonner comme un humain. Enfin, pour l'instant, elle arriverait à raisonner comme un élève qui est au niveau primaire, école primaire. Donc, beaucoup craignent que QStar puisse être le premier pas vers une IA qui soit capable de surpasser l'être humain. Bon, alors, je le répète encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais voilà qui posera en tout cas le décor et qui ne ferait que renforcer les divergences entre les différents responsables d'OpenAI. Et bon, si le conseil d'administration n'était pas forcément au courant de ces derniers développements, on peut imaginer qu'il l'ait mal pris et qu'il y ait eu effectivement ce qu'on avait entendu en fin de semaine dernière, une rupture de confiance entre Altman et le conseil d'administration. Donc, bon, voilà, il y a eu... Ça a été vraiment... Enfin, il y a de quoi faire une série. Ça a été un vrai drama, cette histoire. C'est sans doute pas fini. Ça montre aussi qu'une structure comme OpenAI, qui, comme ça, paraît très robuste, eh ben, finalement, c'est peu de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Altman a dit qu'il allait rejoindre Microsoft, alors là aussi, hein, ça a été très... De manière assez floue. Mais voilà, du jour au lendemain, on avait des centaines d'employés qui étaient prêts à le rejoindre. Et là, on aurait vu finalement OpenAI devenir une coquille vide. Alors, cette coquille vide, cela n'arrangeait quelque part personne. Ça n'arrangeait pas évidemment OpenAI en premier lieu, parce que voilà, la société devenait tout d'un coup quasiment caduque. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, ça n'arrangeait pas forcément Microsoft également. Parce qu'il faut quand même pas, il ne faut pas oublier quand même que Microsoft a investi... plus d'une dizaine de milliards de dollars dans OpenAI. Donc voilà, c'était à ce moment-là perdant-perdant. Et je pense que le retour d'Altman, à certains niveaux, en tout cas pour certaines personnes, arrange beaucoup de monde.
Oui, parce que même durant le fameux week-end où il y a eu des remplacements successifs de CEO, il se disait que Satya Nadella poussait pour que Altman revienne chez OpenAI, ce qui ne s'était pas fait, et puis ce qui a été finalement le cas quelques jours plus tard, quoi.
Oui, je crois que chez Microsoft, on n'a pas du tout apprécié de ne pas être au courant des différents des événements et d'être pris comme ça de court. OpenAI occupe finalement une place effectivement de plus en plus importante dans la Silicon Valley. Et mine de rien, on a vu que cette société, aussi puissante qu'elle puisse être d'un point de vue technologique, était finalement très très fragile. Et voilà, c'est ce qui fait tout le charme et un petit peu de ce modèle-là.
En parlant de remplacement de patron, Tim Cook a déclaré dans une interview cette semaine qu'il y avait un plan très détaillé pour sa succession à la tête d'Apple. Alors ça ne surprendra personne parce que Tim Cook a 63 ans et puis même s'il en avait 10 ou 20 de moins, on parle quand même de l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Donc dans ces cas-là, il faut forcément un plan B. Mais on ne voit pas forcément qui pourrait le remplacer à terme. Le candidat naturel serait Jeff Williams, qui a pris énormément de responsabilités ces dernières années, mais il n'est pas beaucoup plus jeune que Tim Cook. Alors, est-ce que tu as une petite idée de qui pourrait remplacer Cook à terme ?
Jeff Williams, j'y crois pas un instant, ou alors comme un CEO de transition si Apple devait alors brusquement se séparer des services de Tim Cook.
Ouais.
Justement à cause de son âge, hein, je crois qu'il y a 2 ans d'écart entre, entre les deux hommes.
Ouais.
3 ans, ouais. Mais mine de rien, c'est un problème assez général dans les hautes sphères d'Apple. C'est devenu une boîte de soixantenaires. Hein. J'ai regardé les principaux profils et ils sont tous un peu au-dessus ou un peu au-dessous de la soixantaine. Donc, c'est un problème si Tim Cook devait rester à la tête d'Apple, disons, je ne sais pas, encore 5 ou 10 ans. Donc, j'ai regardé la galerie des vice-présidents chez Apple. Et en fait, la vraie question à savoir, puisque l'homme, c'est quel type de profil va être choisi. Est-ce que c'est plutôt un profil technique, comme Federighi? Federighi, d'ailleurs, est l'une des rares personnes qui est encore plutôt jeune. Enfin, quand je dis jeune, de mémoire, il a 54. Est-ce que ça va être, dans la liste des profils, alors est-ce que ça va être un profil plutôt opérationnel? Alors, j'ai vu par exemple le profil de Mike Fenger, qui est assez peu connu du grand public. Pourtant, c'est quelqu'un qui compte au sein d'Apple. Il est responsable des ventes au niveau mondial et il était auparavant responsable des ventes d'iPhone. Autant dire que chez Apple, c'est quelqu'un qui compte. Mmh. Alors, il y a ça, ou est-ce que ça peut être après un profil un peu différent, un profil marketing ou un profil quelqu'un qui vient des Apple Store? J'en ai aucune idée. Mais moi, finalement, dans le discours de Tim Cook, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est sa détermination à vouloir prendre quelqu'un à tout prix qui vient de chez Apple.
C'est ce qu'il a dit, ouais.
C'est assez étonnant. Il n'y a pas de... Voilà, c'est quelqu'un de la maison. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il faut savoir ouvrir les fenêtres. Hein, ça peut être intéressant. Alors, peut-être que la personne qui prendra la tête d'Apple n'est pas encore chez Apple, mais viendra, elle sera recrutée comme vice-président et restera 4 ou 5 ans à ce niveau-là avant de succéder à Tim Cook. Tout ça est très possible. Voilà, en tout cas, ça ferme la porte à Scott Forstall, hein, que beaucoup appelaient Steve Jobs Jr., mais voilà. J'en fais pas mon favori, en tout cas, même si ce sera très marrant.
Ah, c'est mal barré pour lui, là. Sauf retournement de situation à la OpenAI, je vois mal comment il pourrait prendre la tête d'Apple juste après Cook, en tout cas. On va parler d'un tout autre sujet. On va parler de clés, les clés physiques. Personne n'aime ça, c'est embêtant, on a toujours peur de les oublier. Mais heureusement, les clés numériques stockées sur iPhone sont en train de prendre de l'ampleur. Coup sur coup, il y a eu 2 annonces d'alliances de grands groupes autour des clés numériques. La première, c'est Aliro, un nouveau standard pour les serrures connectées qui va être piloté par l'alliance qui est derrière Matter. Et la deuxième annonce, c'est la création d'un groupe de travail qui va faire en sorte de standardiser l'ultra-wideband, une technologie sans fil de proximité, pour les clés de voiture. Alors si on en parle, c'est parce qu'Apple est partie prenante dans ces deux initiatives et qu'elle dirige même le groupe sur les clés de voiture. Est-ce que c'est étonnant de voir Apple collaborer avec des autres marques sur des standards ?
Alors, tout d'abord, je tiens à faire remarquer que dans cette rédaction, je connais des gens qui sont un peu réactionnaires et qui n'hésitent pas à harceler d'autres collègues quand les collègues en question évoquent de temps en temps des soucis avec leur serrure connectée.
je ne vois pas qui tu vises.
Ouais, il se reconnaîtra. Mais je crois que l'industrie et Apple, ils ont tous compris une chose, c'est qu'on n'avancera pas dans ce domaine tant qu'on n'a pas mis au point des standards. Et ça, je pense que c'est très positif. Parfois, c'est long, c'est poussif. On casse des compatibilités. Parfois, il faut racheter des produits. Certaines technologies comme Matter ne sont pas simples à expliquer auprès du grand public. Et Trade, voilà, tout le monde, par exemple, confond Trade et Matter. Mais à la fin, c'est comme un château de cartes. Voilà, on est en train de bâtir des fondations un peu partout. Le grand public va y voir tout d'un coup beaucoup plus clair. Il y aura sans doute moins de craintes à savoir si j'ai tel produit avec tel produit. Est-ce que ça, c'est compatible avec ça et avec ça? Je pense que tous ces problèmes vont disparaître et que les choses vont s'accélérer d'un coup et qu'on va voir vraiment la domotique rentrer à grande vitesse dans nos vies, ce qui est déjà le cas, hein, mais je pense qu'il va y avoir une vague d'accélération assez importante dans les prochaines années. Et franchement, la vie sans clé, moi je trouve que c'est vraiment cool.
Oui, et puis souvent quand il est question de nouveaux standards, c'est compliqué au début. On le voit avec Matter, là, il y a quand même des complications. Il faut encore des différents des produits différents, des hubs, des choses comme ça. Mais à terme, si la promesse est tenue et on s'y dirige petit à petit, ça va quand même simplifier la vie des gens. Ça, on va moins se poser la question de savoir si l'ampoule que j'ai achetée là, elle est compatible avec mon smartphone Android et mon iPhone. Ça va être la même chose pour les clés de voiture et les clés de maison, quoi.
Et puis on le voit, de toute façon, avec l'USB, l'USB-C, tout est tellement plus simple.
Ah, mince. Si tu as le bon câble, c'est plus simple, ouais.
Coucou Pierre.
Et on va terminer le tour des actus par un petit point sur le Vision Pro. On ne l'a pas oublié, hein. Apple promet toujours son lancement aux États-Unis pour le début de l'année prochaine. Mais par début d'année, il ne faudrait pas trop s'attendre à janvier. D'après Mark Gurman, Apple pourrait commercialiser son fameux casque seulement à partir du mois de mars. Alors le matériel serait déjà prêt. Ce serait plus au niveau logiciel qu'il y aurait des boulons à serrer. Et il faudrait aussi préparer les vendeurs. Ça ne va pas être une mince affaire parce que ça va être un appareil très spécial à vendre. Mais bon, janvier ou mars, ça n'a pas vraiment d'importance, non ? Il n'y a pas le feu au lac.
Oui, de toute façon, je ne m'attendais pas à une sortie le 15 janvier, ça c'est une évidence. Bon, peut-être qu'on aura un keynote courant janvier, éventuellement pour une sortie en mars-avril, hein. Il peut y avoir un délai assez important entre les deux événements. Puis en plus, Apple a maintenant le champ libre, hein. Les premiers Mac M3 qu'on attendait plutôt pour début 2024 sont sortis. Donc voilà, Apple a vraiment le loisir de choisir le calendrier qui lui va le mieux. Sachant que le deuxième trimestre, par contre, risque d'être un peu plus agité, hein, si l'on en croit les différentes rumeurs. On pourrait avoir les nouveaux iPads et potentiellement également les nouveaux MacBook Air. Après, plus j'y pense, plus je me dis, mais ça va être une de ces usines à gaz, ce Vision Pro, si les rumeurs disent vrai. Donc, pour l'instant, a priori, il va falloir aller dans un Apple Store pour en acheter un, ce qui est quand même assez fou. Alors, je comprends qu'Apple cherche à maximiser l'expérience d'utilisation auprès des premiers clients pour éviter le bad buzz sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire qu'à la fin, Apple va quand même chercher à te vendre un objet pas sur mesure, mais pas loin. Voilà, finalement, on va se retrouver... c'est un peu comme quand on va acheter une voiture. On va chez le concessionnaire. C'est assez fou de se dire ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est... alors, on parle d'un objet qui est quand même relativement cher. C'est le potentiel de revente du Vision Pro. Est-ce que ça va être un objet qui va être facile à vendre? Si vraiment... voilà, je ne sais pas s'il y a les lanières, s'il y a les histoires avec les verres de correction et tout ça. Comment ça va se passer?
Ah ouais, ça, bah je pense... Est-ce qu'Apple elle-même y a pensé, quoi? Et à mon avis, ils vont être contents plutôt de lancer leur produit qui a mis des années et des années à être développé. Et la revente, oui, c'est même la question de la réparabilité aussi. On en parle beaucoup en ce moment pour les iPhones, les Mac. Est-ce que il y aura des plans pour réparer soi-même son Vision Pro? C'est pas dit. Hein.
Oui, voilà. Mais c'est ça, parce que malgré tout, par exemple, aujourd'hui. J'achète un iPhone à 1 500 €, un MacBook Pro, on va dire, très haut de gamme à 4 000 €. Certes, je dépense une somme relativement importante, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'ai quand même l'assurance que le produit, je pourrais le revendre à un prix certain. Et c'est le cas à peu près pour beaucoup de produits Apple, et il y a quelques exceptions à ça malgré tout. Il y a l'Apple Watch, parce qu'avec la batterie, c'est quand même un peu touchy. Donc la revente, le marché existe, mais il est quand même moins développé que pour les autres produits Apple. C'est un peu la même chose aussi pour les AirPods et les AirPods Pro. On n'a pas envie d'acheter forcément un produit trop usé parce qu'il se pose la question des batteries ensuite. Mais bon, alors à la limite, voilà, ça, on parle de produits qui sont vendus quelques centaines d'euros. Là, on parle d'un produit qui va être vendu 3 ou 4 000 euros. Je l'achète, j'en fais quoi? Comment ça se passe au bout de 2 ans? Finalement, il y a juste quelque chose de rassurant par rapport à ça, c'est que la batterie, ça ne devrait pas être un problème, puisqu'elle est externe, donc quelque part, la durée de vie d'un Vision Pro, sur le papier, ça pourrait durer très longtemps.
Ouais, mais en contrepartie, c'est aussi une toute première génération d'un tout nouveau produit. On a vu que les premières générations, généralement, vivaient pas très bien dans la durée. Que ce soit l'iPhone de première génération, l'Apple Watch série 0, tout ça. Donc,
non, mais t'as raison.
Je pense pas qu'il faille le voir comme un produit vraiment durable, quoi. Eh bien, merci Christophe pour ce point sur l'actu.
Bah écoutez, bon week-end à tous et bon shopping pour ceux qui cèdent aux sirènes du Black Friday Cyber Monday.
Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Salut à tous.